à la médiathèque départementale d'Iwa-Vercors, la balise sonore, un atelier de réalisation radioactif pour RDIWA 107.5.
Ouais, j'écoute tout le temps.
Ah bon?
Ouais.
Ah chic alors. Bonjour, excusez-moi, j'aimerais bien vous connaître. Est-ce qu'il y a une œuvre, un document de cette médiathèque qui vous a plu plus que tout, qui vous a fait vivre, ressentir, aimer, désirer? Vous pourriez m'en parler?
Allô.
Mais viens, Laurent. Ouais, on est tous les deux comme ça.
Ouais, mais c'est des questions très simples.
Yo.
Non, la question est très mal posée.
Bonjour.
Vendredi 28 mai 2021, 14h.
Bonjour.
Drôme.
Bonjour. Voilà. Est-ce que là on s'entend? Est-ce que vous m'entendez?
Oui,
je vous entends parfaitement. Voilà. Ça c'est fait. Oui.
Grand soleil et peu de vent au devant de la médiathèque d'Iwa Trésor. Ce jour-là, nous avons installé notre petit studio d'enregistrement à l'ombre, sous le dessus, juste à l'entrée du bâtiment. Aujourd'hui, nous fêtons ici aussi, avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'existence de 100 ans de radio, mais aussi 40 de radio libre et 10 de RDIWA, peut-être 11.
Il est 14h20 et pour l'instant, je n'ai eu encore personne, que des refus. Donc je fais les 100 pas sur le parvis de la médiathèque.
Écoutez plutôt ce que les visiteurs et visiteuses du lieu se sont rappelés à nos micros de radio, des souvenirs et des voix. À vous là-bas, quelque part dans le Diwa ou ailleurs. RDIWA 107.5 FM.
Et ça fait toujours grand plaisir de venir travailler dans cet endroit. C'est un très bel endroit. J'imagine que tout le monde le connaît.
Tournez la page.
Alors, merci d'être là. Alors, qu'est-ce que, là, à l'instant, vous venez de poser sur notre table de radio installée à la médiathèque de Die une très, très vieille radio. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler de cet appareil?
C'est un vieux poste à galène. Un vieux poste à galène, donc les radios grandes ondes courtes, et qu'ils appelaient petites ondes avant. Et tout enfant, pour moi, c'est un objet magique, parce que quand on tournait le bouton, on pouvait voyager dans le monde entier.
Ouais.
On entendait des langues étrangères, du chinois, du russe, de l'anglais, des choses que je ne comprenais pas du tout, mais qui me faisaient vraiment voyager.
Et alors, elle était installée chez qui, cette radio ?
Elle était chez ma grand-mère.
Ouais.
C'était d'un temps où il n'y avait pas encore de télévision.
Ah
donc,
oui.
La radio, c'était vraiment le moyen de communication, là où on pouvait entendre de la musique, des concerts, des informations. Et puis, on pouvait voyager sans bouger de chez soi.
Ouais. Et alors, cette grand-mère, elle était où? Donc, c'était quoi son environnement?
Alors, ma grand-mère vivait en Alsace, dans un petit appartement. Et la radio était sur le buffet.
Ouais.
Et on l'allumait le soir,
ouais.
En même temps que la lampe.
D'accord.
Voilà.
Et alors, vous étiez tous là, vous, enfants, votre grand-mère, autour de ce poste de radio.
Voilà. Et puis, on écoutait les informations. Et puis après, quand j'avais été sage, je pouvais un peu tourner les boutons,
ouais.
Et voyager.
D'accord. Et alors, ça, est-ce que ça, ce voyage radiophonique, donc ça vous a marqué, j'imagine, et est-ce que ça a forgé quelques goûts et quelques envies pour votre vie qui est celle d'aujourd'hui?
J'ai beaucoup voyagé après. Et je pense que enfant, ma première découverte d'un autre monde, c'était par cette radio. Un monde où on parlait d'autres langues, où il y avait d'autres styles de musique, où il y avait d'autres choses. Voilà, et ça m'a donné envie après de voir de mes propres yeux. Et effectivement, j'ai eu la chance de voyager.
Ouais. Est-ce qu'il y a des voix de radio qui vous ont particulièrement marqué?
Des voix de radio, il y a des concerts, je pense, enfin des morceaux de musique ou de chant choral qui m'ont beaucoup marqué. La première fois que j'ai entendu Ivan Rebrov, par exemple, c'était assez impressionnant, j'étais sur le cul. Ouais. Ou Oum Kalsoun, enfin bon, des grandes voix étrangères qui ouais. m'ont beaucoup marqué. Ouais. La radio, c'est un moyen de faire du lien aussi. Et c'est un moyen de faire du lien qui fonctionnera peut-être quand le reste ne fonctionnera plus. Mmh. J'essaye toujours d'avoir chez moi une petite radio avec des piles qui fonctionnent. Parce que je me dis, si un jour on a un gros problème ou une panne de courant ou tout ça, c'est toujours un moyen de savoir un peu ce qui se passe. Mmh.
Quels sont à vous, madame, vos souvenirs de radio?
Alors, je ne suis pas une grande auditrice de radio. Je ne sais pas pourquoi, parce que maintenant je suis à la retraite et donc je pourrais passer du temps à écouter. J'écoute quelquefois l'heure bleue et j'aime beaucoup la façon qu'a Laura Adler d'aller au cœur des choses très délicatement sans avoir l'air de rien, mais elle y va. Et je pense que ses interlocuteurs le sentent et se laissent faire la plupart du temps. Et j'aime beaucoup vraiment cette façon de faire. Voilà. Et ça, c'est assez récent. Peut-être depuis que je suis à la retraite.
Ouais. Et il y a aussi le générique de cette émission.
Oui. Je ne m'en souviens plus. Alors, il y a une musique qui est très agréable, très poétique, très onirique.
Oui.
Oui, que j'aime beaucoup aussi, ouais. Qui m'emporte. C'est comme un moment suspendu, en fait. Au-delà des informations, peut-être que c'est la relation que j'ai envie de creuser à travers ce média ou ce vecteur, comme disait notre ami Jacques tout à l'heure.
Est-ce que vous avez des souvenirs un peu plus lointains de radio?
Oui, c'est vrai que j'en ai. Mes parents écoutaient la radio le matin et au petit déjeuner, nous écoutions sans doute France Inter et je pense que le générique des infos de 7h ou de 8h, je pense qu'il me trotte encore dans la tête. Et c'est quand même comme ça que j'ai appris la mort d'Edith Piaf. Mmh. Je ne devrais pas le dire parce que du coup, on va se dire, mais quel âge a-t-elle, cette dame? Et c'était l'irruption d'un événement comme ça dans notre intimité, notre toute petite cuisine à Paris et par ce vecteur-là, par une voix qui nous disait, voilà, Edith Piaf vient de mourir. Mmh. C'était comme un choc, quoi. Mmh. Mmh. Plus encore, peut-être nous n'avions pas la télévision, et je n'ai jamais eu la télévision. Donc, la voix, la radio, même si, comme je vous le répète, je ne suis pas vraiment auditrice, ça a un poids pour moi. Mmh. Ça a un poids. Mmh. Mmh. Peut-être plus que les images. Voilà, la télévision, je me dis, de toute façon, c'est nul, donc je ne regarde pas. C'est pas vrai, hein, mais...
Le son permet quelque chose d'autre.
Oui, le son, la voix qui transporte la personnalité de la personne qui parle et ce qu'elle évoque. Et un peu comme dans la lecture, peut-être que je me sens plus libre, puisqu'il n'y a pas d'image. Je me sens plus libre de penser, de rêver, de... Je sais pas, Laura Adler, je crois que j'ai vu sa photo très récemment, je l'imaginais pas du tout comme ça, et c'est pas grave, mais voilà, pour moi, c'était comme une fée. Et c'est ça que j'aime, au fond, c'est que ça me fait rêver, en fait, c'est ça que j'aime. Ça me fait rêver, même si ça apporte des informations de la culture, comme vous le dites, voilà, une ouverture sur des écritures, des personnes et leur univers. Mais au fond, je crois que ça me fait rêver. Ce que la télévision ne m'apporte pas. Je trouve par exemple les documentaires animaliers extraordinaires de qualité. Je me demande combien d'heures d'affût les photographes ou les cinéastes font. Mais ça ne me fait pas rêver, c'est la réalité.
Le champ est parsemé de fleurs d'amandier. Elles se collent aux sandales. À la cuisine, la femme dit « Tu es le seul qui apporte à la maison des fleurs sous les pieds. Et toi, tu es la seule qui les accueille avec un manche à balai au lieu d'un vase en cristal. » Eri De Luca est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre de poésie intitulé...
Alors, dans ma jeunesse, on va dire, hein, oui, c'était quand même il y a 30 ans, j'ai par hasard un peu initié par un voisin, un ami, qui m'a dit « Allez Catherine, je fais une émission à Radio Canu, là, je fais les infos, tu vas voir, c'est rien, mais je suis tout seul, viens m'aider. » Alors, je dis, oh, bah oui, moi je suis curieuse et assez ouverte. Et puis mon père était journaliste quand même, un journaliste de presse dans l'écrit. Mais bon, voilà, par curiosité, j'y suis allée. C'était assez folklore, je ne devrais pas le dire. Mais bon, une demi-heure avant, on prenait quelques journaux, on regardait les gros titres. Et puis bon, on retransmettait ce qu'on avait lu. C'était ça, les infos à Radio Canu. Pourquoi pas ? Bon. Et je me souviens, et on le faisait assez régulièrement. Et je me souviens quand même d'un soir de Noël, c'était notre jour d'émission, et on y est allé, un soir de Noël, et on s'est dit, on va faire un petit test pour savoir s'il y a quelqu'un qui nous écoute. Ouais. Et on a posé une question, je ne sais plus laquelle, je ne sais plus du tout. Bon, ben voilà, chers auditeurs, vous pouvez nous appeler, etc. Et il y a quelqu'un qui nous a appelé. Un soir de Noël. Radio Canu. Ah, c'est trop fort quand même. Ah, on était contents. Hein.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette radio quand même, parce que c'est une radio.
Ça a été la première, je crois, la première radio libre en France.
Ouais.
Donc, qui n'était pas tellement autorisée à l'époque. Hein, et ouais. Donc, elle doit avoir 40 ans, peut-être plus. Mmh. Moi, je me souviens d'être allée à ses 30 ans. Et alors, c'était. Et le studio existe toujours. Je suis allée à Lyon récemment. Le studio existe toujours et cette radio existe toujours. Je ne sais pas comment, mais c'est incroyable. Par une bande de gens qui sont motivés, qui ont envie de faire de la radio, qui ont envie d'être dans ce studio, de raconter des choses ou de passer de la musique et de faire découvrir la musique. Quoi. Mmh. Donc, c'est fantastique. C'est tout petit. C'est très roots, mais c'est chouette, quoi.
Ouais.
C'est chouette. Et alors, ça a été une année, bon, moyennement intéressante. Et la deuxième année, avec mon compagnon, cette fois-ci, on était assez férus de bal folk et de musique folk. Et on a fait une heure d'émission toutes les semaines sur la musique et la danse folk.
Ah.
Et ça, c'était énormément de travail parce que quand on était absent, moi, je m'engage et je disais, écoute, Joël, là, on va être en vacances. Mais on enregistre l'émission parce qu'elle doit avoir lieu. Ça n'existe pas, les gens qui sont en vacances à la radio. Alors lui, il était un peu bon. Mais j'ai dit, si, allez. Et donc, on passait 3 heures ou plus à enregistrer une heure d'émission.
Ouais.
Vous comprenez ce que ça veut dire comme travail. Hein. Mais du coup, on est allé dans des festivals, on avait notre petite carte de presse, on était trop contents.
Ouais.
Et on allait interviewer les groupes, les machins, et on se creusait la tête pour poser des questions intelligentes. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était très difficile de poser des questions intelligentes. Oui, ouais, alors, comment vous avez constitué le groupe et pourquoi et etc.
Ouais.
Mais c'était chouette, et on est allé au Festival de Lorient, notamment, le Festival interceltique de Lorient, et là, on en rentrait partout avec cette carte de presse et on a rencontré des tas de musiciens et de danseurs.
Ouais.
Et on les a fait venir en studio. On a fait du live.
Eh oui. Oui, parce que faire du live, c'est encore autre chose.
Autre chose,
ça.
Voilà.
C'est une autre...
Et on a invité quelques grands noms, entre guillemets, de la musique folk à l'époque, genre Jean Blanchard ou des gens comme ça, quand même, qui sont venus à Radio Canu dans les studios jouer en direct. Ah, c'était trop bien.
Alors du coup, avec tous ces souvenirs, là, tout ce que vous venez de me raconter, la radio pour vous, c'est quoi ?
C'est des gens qui parlent aux gens. Voilà, c'est un peu comme les terrasses de café, c'est la moitié du monde qui regarde l'autre moitié du monde passer. Bah, pour moi, la radio, c'est ça, c'est des personnes, des gens qui parlent aux gens. Et si ça doit être ça, ça l'est pas toujours peut-être, mais ça doit être ça vraiment.
Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le champ est parsemé de fleurs d'amandier. Elles se collent aux sandales.
Tout le monde avait toujours dit à Ferguson que la vie ressemblait à un livre, une histoire qui commence à la page 1 et qui se déroule jusqu'à la mort du héros, page 204 ou 926. Mais maintenant, l'avenir dont il avait rêvé changer, sa notion du temps...
Eri De Luca est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre de poésie intitulé « Aller simple » suivi de l'hôte impénitent.
Pouvez-vous mettre ce casque-là dans ça ?
On a l'impression d'être un peu entre nous dans un petit endroit. Je vous laisse prendre le micro. Voilà. Alors, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez peut-être quelques souvenirs de radio, quelques vécus avec ce média.
Oui, je suis un célibataire endurci et la radio est une forme de compagne en fait, puisque elle accompagne mes nuits en fait. Et je dis ça très honnêtement, hein, c'est pas que je fasse particulièrement de l'insomnie, mais mon premier réflexe en fait quand je ne dors pas en fait, ou quand je me réveille et que je retrouve pas le sommeil, c'est de brancher la radio en fait.
Ouais.
Alors je me branche sur les nuits de France Culture. Qui ont le mérite en fait d'être comme ça dans un rapport totalement intemporel, c'est-à-dire que on a là des émissions qui peuvent avoir 20 ans, 30 ans, qui parfois datent de la veille, et donc il y a une espèce d'aléatoire en fait temporel que j'aime beaucoup et qui permet aussi en fait de reprendre contact avec des personnes voilà qu'on a connues, qu'on a aimées. Alors je pense par exemple à des comédiens par exemple qui sont très souvent interviewés et qu'on retrouve. Alors parfois ils ont disparu, je pense à une comédienne comme Denise Jans qui était une grande comédienne de la Comédie Française qu'on a peu vu au cinéma mais beaucoup au théâtre. Et ben voilà, une nuit comme ça, par pur hasard, je retombe sur sa parole. Et je trouve que c'est des moments d'une grande intimité, parce qu'on a l'impression vraiment en l'occurrence, la comédienne vous chuchote à l'oreille, elle est là juste pour vous, elle accompagne votre insomnie. Et c'est pour moi très précieux, en fait. C'est des moments que j'aime beaucoup. Alors, l'autre particularité, bon, là, je vous raconte ce qui me revient.
Ouais.
L'autre particularité, c'est que quand même, généralement, au réveil, je ne me souviens de rien. Donc, tout ça est parfaitement gratuit. Alors, je me dis, sans doute, ça me pénètre à un endroit de la conscience, je ne sais pas trop lequel, mais le lendemain, je ne me souviens pas. Et ce n'est pas grave, en fait. On n'a pas besoin absolument de fixer quoi que ce soit, en fait. Ça relève plus, effectivement, d'une expérience sensorielle. Alors, sur l'instant, je suis très concentré sur l'écoute, sur la qualité du discours, mais c'est quelque chose qui se perd, et je me dis, bon, c'est comme ça, de ne pas chercher absolument à attacher les choses. Enfin, c'est pareil, quand on voit des films, on lit, quoi qu'on lise, à un moment, ça disparaît, quoi.
Les nuits de France Culture.
Est-ce que ça, ces écoutes-là vous font remonter aussi dans votre propre histoire ?
France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Oui, par la force des choses, puisque évidemment, c'est rattaché à des moments de notre propre vie. Donc Denise Jean, c'était moi, la comédienne que je voyais à la télévision quand j'étais gamin, que je n'aimais pas quand j'étais enfant, parce qu'elle me faisait un peu peur. Mais devenu adulte, évidemment, on a un regard très très différent. Et tout à coup, j'ai une autre compréhension aussi de la personne. Et ce qui me faisait peur enfant, mais qui m'attirait néanmoins, me fascinait, devenu adulte, devient très attachant.
Tournez la page.
J'ai toujours aimé les êtres originaux, bizarres, chimériques, singuliers. Ils sont pour moi le charme de la vie, autant qu'en sont l'horreur les gens qui ressemblent à tout le monde. J'aime leur fantaisie, leur folie. Je les suis quand je les rencontre dans la rue. Je cherche à me renseigner sur eux, je voudrais les connaître et les fréquenter. Je n'ai que dégoût pour les sots qui se retournent et qui rient sur leur passage.
Et alors, est-ce qu'il y a des voix aussi de radio particulières, marquantes justement, un timbre de voix ?
Oui, bien sûr. Alors, bon, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, hein, mais il y a eu pendant... Alors justement, pour les amateurs de radio nocturne, il y a eu la voix de Ménie Grégoire, qui avait comme ça une espèce de radio d'écoute. C'était assez révolutionnaire pour l'époque. Et en l'occurrence, c'était une qualité de timbre absolument magnifique. Hein. Enfin, d'ailleurs, je dirais que la télévision, comme la radio avant, je dirais, le niveau en fait, de proposition qui est le nôtre aujourd'hui, donc l'époque de l'ORTF ou de la radio de l'époque, était extrêmement sensible à la qualité des timbres et des voix. Ouais. Donc je pense à quelqu'un comme Denise Glaser, par exemple, qui a été une grande animatrice de télévision, avait une voix très rare. Et évidemment, ça marque, c'est-à-dire que c'est absolument inoubliable. Mais y compris, j'ai fait cette expérience il n'y a pas si longtemps, ça doit faire 2-3 ans à la Villette, au musée de la science, il y avait là une exposition sur le son. Et il y avait des espèces de capsules dans lesquelles on s'installait et on nous diffusait des voix. Et en l'occurrence, je suis tombé sur la voix de Ménie Grégoire à ce moment-là. Et bah, je peux vous dire que tout de suite, ça réveille comme ça une espèce de mémoire qui est quand même une mémoire collective, hein, parce que c'est les grandes heures de la radio aussi. Et c'est quand même vraiment facteur d'émotion, parce que justement, pour revenir à la question précédente, bah, les voix nous le son nous rattache à des moments de notre histoire, de notre propre histoire. Alors on en a une compréhension différente suivant les époques de la vie, mais il y a quelque chose de très très puissant, je trouve.
Ici Ménie Grégoire, qui vous dit bonjour à tous. Vous entendez la salle Pleyel remplie à craquer et qui fait beaucoup de bruit, car nous venons d'avoir depuis une demi-heure une discussion absolument passionnée et passionnante sur l'homosexualité que nous allons continuer sur l'antenne. Mais avant de donner la parole aux gens qui connaissent bien la question pour des tas de raisons diverses, je voudrais résumer ce que moi j'ai entendu pendant 3 ans, ce que j'ai essayé de comprendre et ce qu'on m'a dit, car les lettres d'homosexuels dans mon courrier tiennent une très grande place. Et les lettres que j'ai reçues des homosexuels garçons, jeunes, me disent qu'ils sont malheureux.
La radio, pour moi, c'est un vecteur. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est un art en soi, mais en tout cas, on est en contact avec l'art à travers la radio.
Mais il y en a qui m'ont écrit en disant qu'ils ne souffraient pas pour faire de la propagande, c'est-à-dire se réhabiliter, et j'en conclus que comme on a besoin de se réhabiliter, c'est qu'on est quand même culpabilisé d'une façon ou d'une autre. Alors maintenant, je vais donner la parole aux gens qui sont là, qui je sais déjà ce qu'ils ont à dire, ils ont beaucoup de choses à dire. Qui veut la parole?
Et c'est comment votre prénom?
Jacques.
Merci Jacques. Voilà,
ça marche là?
Ça marche. Impeccable. Alors, bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous, la radio, c'est quoi pour vous finalement? Comment vous le définiriez?
Bah, c'est une compagnie qui me permet aussi de faire d'autres choses, de pouvoir travailler un peu, de pouvoir... À condition que le sujet ne demande pas trop de concentration, on peut écouter la radio et vaquer à ses occupations. Quoi. Et France Inter, c'est la radio sans publicité, enfin plus maintenant.
Voilà.
Malheureusement, la publicité a envahi les ondes de France Inter et je dirais que la qualité des flashs publicitaires est vraiment... mauvaise, quoi, enfin, à la fois sur la forme et sur le fond, sauf pour NRCOP en ce moment. Donc là, j'apprécie. Mais donc c'est avant tout une compagnie. Une compagnie, j'ai du mal à trouver le mot, en fait. C'est pour se distraire. Ouais. Une compagnie de distraction, mais aussi d'une distraction de qualité, à mon sens, selon mes critères, moi.
Peut-être même rassurante.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, enfin, en tous les cas, qui ne bouscule pas, qui n'est pas intrusive, qui n'est pas agressive.
Est-ce qu'il y a des animateurs, des personnages de radio que vous, qu'on n'entend plus et que vous regrettez de ne plus entendre?
Oui, bah, de toute façon, l'émission que j'écoutais tous les après-midi alors que je travaillais, me semble-t-il, ça a bougé dans l'après-midi au fur et à mesure des années, c'était Daniel Mermet. Donc là-bas, si j'y suis, est une émission qui pendant au moins 20 ans a peuplé mes après-midi. Je travaillais, je faisais des consultations à domicile avec le véhicule, et donc j'écoutais entre deux consultations à domicile. Je m'arrêtais parfois parce que je voulais pas lâcher le morceau, tellement c'était intéressant.
Et alors cette émission, elle a été mise de côté, lui renvoyé de France Inter, je crois.
Je ne sais plus pour quelle raison, mais effectivement, ils ont d'abord baladé l'émission dans le programme de l'après-midi à des horaires qui étaient peut-être moins intéressants. En fait, sur France Inter, les horaires ne sont pas toujours les plus intéressants. Certaines émissions, à mon sens, n'ont pas la place. Si je veux illustrer l'exemple, c'est l'exemple de l'émission de M. Amezen sur les épaules de Darwin, qui par exemple était extrêmement intéressante, mais à 11h le samedi, alors qu'il fallait s'asseoir et écouter tranquillement. Cette émission était mise là en fin de matinée, alors que le samedi en fin de matinée, en général, on n'est pas très disponible. Quoi.
Selon vous, la radio, c'est encore un espace de liberté, d'expression libre?
Je pense que oui, mais je pense que là, comme partout, les présentateurs, les journalistes sont certainement cernés, surveillés, et malheureusement doivent exercer certainement une autocensure, quoi. Je pense, il ne faut pas être naïf.
Bon, et la radio du futur, de notre avenir, comment vous l'imaginez? Comment vous l'imagineriez?
J'aimerais bien continuer comme ça. Voilà, des émissions, des rendez-vous fixes sur lesquels on se branche en fonction de ses disponibilités. De l'information, des flashs d'information capables de... Donc de nous avertir de choses importantes, de la distraction, de qualité. Enfin, ça, c'est ce que je veux, moi. Un endroit de culture où on va aussi nous faire découvrir des choses. Si je prends, par exemple, l'émission de Daniel Mermet, il m'a fait découvrir beaucoup de problématiques qui m'étaient étrangères. C'était grosso modo, pour moi, donner l'alerte. Il m'alertait sur. Il s'indignait en permanence sur. Et donc, je le suis redevable de m'avoir fait découvrir toute une série de choses. Je me souviens d'une émission particulièrement douloureuse qui a été une série d'émissions sur la guerre d'Algérie. C'est la première fois qu'on parlait à la radio France Inter sur plusieurs semaines d'affilée, qu'on a interviewé des gens qui avaient combattu en Algérie et qui expliquait l'horreur, parce que ces personnes revenaient de l'Algérie sans aucun soutien psychologique. Et moi, dans ma patientèle, j'ai croisé des personnes, des hommes qui avaient un secret, et en fait le secret résidait dans ce qu'ils ne voulaient pas dire qu'ils avaient vécu pendant la guerre d'Algérie. Donc je remercie Daniel Mermet, par exemple, pour avoir réussi à témoigner, à faire rassembler les témoignages.
Et peut-être que même ces patients, s'ils avaient pu écouter ces témoignages de radio, auraient pu peut-être soulager, soigner quelque chose.
J'ai tendu des perches. Suite à ça, j'ai compris des choses. Ça, on n'enseigne pas ça en faculté de médecine. Mais on n'enseigne pas le secret des personnes. Mais bon, la vie nous apprend que des gens ont des secrets. Et de temps en temps, au bout de 20 ans, de
pratique.
Où se côtoient pendant 20 ans en tant que médecin de famille, les gens nous disent quelque chose, pas tout de suite. Et à ce moment-là, si on est attentif, on peut peut-être tendre une perche, une passerelle, et essayer de comprendre ce qui se passe.
Voilà, je viens donc souhaiter à toutes et à tous un très très beau 1er mai et un joli 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 mois de mai. C'était de la part de Zozo.
Ouais, salut Daniel et toute l'équipe, c'est Gaëtan. Voilà, on est à Saint-Brieuc, il y a quelques centaines de manifestants pour le 1er mai. Un peu sous la pluie, mais on reste groupés. Voilà, un petit bonjour de Saint-Brieuc. À bientôt, salut à toute l'équipe.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis, une heure de chansons. Une heure ou presque, des chansons sur le travail. Vive la paresse!
Alors, là, je suis en présence toujours à la médiathèque de quelqu'un de connu, mais peut-être pas suffisamment. Guillaume.
Alors, salut.
Salut, Guillaume. Et alors, toi, quels sont tes souvenirs de radio, d'auditeur de radio?
Alors c'est ça, oui, si on pouvait même parler des deux, moi j'avais un peu l'intention de parler de l'occasion d'avoir été invité à faire de la radio aussi.
Ouais. C'était quoi cette occasion de faire de la radio?
Eh bien c'était à Paris justement, effectivement, par exemple moi mon rapport à la radio c'est de jamais beaucoup l'écouter, j'ai jamais été hyper connecté à la radio, mais en ayant habité à Paris j'étais curieux d'avoir de nouvelles émissions et par exemple d'écouter Radio Libertaire qui me plaisait bien, du coup qui est la radio de la Fédération Anarchiste et puis au moins il y avait des émissions un peu saugrenues on va dire. Et puis il y avait Fréquence Paris Pluriel où il y avait une émission qui s'appelle L'Envolée qui est sur les prisons et voilà. Et c'est eux qui étaient venus nous rencontrer, j'ai travaillé à Paris, à la SNCF, à la gare d'Austerlitz et voilà pendant des grosses grèves de retraite ils sont venus nous enregistrer nos AG et puis ils nous ont demandé de... Ils nous ont interviewés après en émission de radio, et puis j'étais allé aussi à Radio Libertaire pour ça. Enfin voilà, à un moment j'étais bien motivé, et j'avais trouvé ça chouette.
Voilà, donc tu as été, tu as donné ta voix, tu as partagé tes idées au micro de ces radios. Et là, c'est des moments importants, quoi, ça. C'est
ouais,
des souvenirs forts.
Voilà, pour moi, c'était très important. Parce que, oui, voilà, c'était des choses qui me tenaient à cœur. Et du coup, c'était étonnamment assez simple de se retrouver là et puis d'avoir des choses à dire. Donc, et puis de se sentir à l'aise, effectivement, le cadre, les gens, c'était un peu entre convaincus, c'était plus facile. Mais,
ouais.
Mais voilà. Ouais.
Et est-ce que, après les enregistrements ont été faits, les montages, est-ce que tu as eu l'occasion de t'écouter, de t'entendre plutôt même?
Eh bien, je ne me souviens plus trop si j'ai fait ça. Je pense que j'ai fait, en tout cas, c'était amusant. Enfin, pour moi, à ce moment-là, je prévenais des gens autour de moi et ils me faisaient des retours. Mais par exemple, c'est vrai que j'ai eu vite fait l'occasion de passer à RDIWA quand on avait le groupe Deus Ex Machina. Et en fait, moi, j'ai même pas. Le rapport à la radio, c'est que j'ai même pas internet chez moi, j'ai pas d'ordinateur, je veux pas acheter de journaux, etc. Ouais. Et du coup, non, je les écoute pas forcément. Ouais. J'ai jamais de trucs pour le faire.
Ouais. Et c'est peut-être pas si important que ça de s'écouter.
Ouais, non. Ouais. Non, c'est pas si grave. En tout cas, j'ai du mal avec les outils internet, le pire. Quoi.
Ouais. Alors, maintenant que tu n'es plus à Paris, que tu vis un peu dans les montagnes du Diwa, un peu loin de tout, apparemment, c'est quoi la radio pour toi?
Eh bien, la radio pour moi, ça reste du coup une petite chose. Enfin, pour moi, ça me tient quand même beaucoup à cœur. Je trouve ça chouette, les copains qui font des émissions. Et par exemple, du coup, RDIWA, je me dis heureusement que ça existe.
Tournez la page.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils n'avaient pas faite et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
Glorious passe, jamais plus rien.
Cirquel, si. Parce qu'il y aura toujours des fous.
Thank you.
clair. Circle.
C'était à la médiathèque d'Iwa-Vercors, des souvenirs et des voix. Pour RDIWA, la radio du DIWA. Merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu nous confier un peu de leur voix. À bientôt. Mettre les casques, comme ça on sera tous les deux dans une petite bulle.
En fait, j'ai donc acheté un petit poste de radio, un transistor, pour entendre la radio ici, donc Adi, et j'ai sélectionné donc les fréquences de RDIWA. Voilà, ça sur le conseil d'amis du DIWA qui sont des expatriés du Nord depuis déjà plus de 20 ans et qui m'ont dit eh ben, il faut absolument que tu écoutes RDIWA. Donc j'aurais demandé c'est quoi RDIWA, ils m'ont dit écoute, tu verras bien.